enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Alors, mon message matin s'intitule, dans le fond, c'est l'ado adorateur contre les vrais géants. Ou David, l'ado adorateur, et son combat contre les vrais géants, c'est-à-dire les préjugés. Les vrais géants de David, en vérité, c'était les limites que les autres ont mises sur lui et les préjugés que les gens avaient envers lui. Et c'est souvent ce qui arrive avec les jeunes. Souvent, les jeunes subissent des préjugés. Souvent, on a des préjugés envers eux défavorables. Par exemple, tantôt, quand j'étais au piano, puis que tout à coup, au début, le PowerPoint, ça partait pas. Je suis sûr qu'il y a des gens qui ont pensé, « Ouais, mais c'est des jeunes qui sont pas habitués, c'est pour ça que ça marche pas, puis ça part pas. » Erreur. C'est parce que hier, on a changé le système, puis n'importe qui aurait eu de la misère. Parce qu'ils ne savaient pas comment ça fonctionnait. Donc, c'était pas à cause que c'était des jeunes. Parce que les jeunes, d'habitude, à la jeunesse, le font sans problème. C'est juste parce que c'était nouveau. Mais souvent, notre première réaction, c'est de dire, « Ouais, mais c'est sûr que c'est un jeune. » On est vite à mettre une étiquette sur un jeune. Et puis, on est vite à mettre des limites dessus. Alors, je voudrais vous parler de David, parce que David, les plus grands géants qu'il a connus à son adolescence, ce sont les préjugés. Pourrais-tu juste fermer le moniteur de mon micro, s'il te plaît, Jeffrey? Pas le son en haut, juste le moniteur. Ouais. OK. Parce que dans le fond, d'habitude, à la jeunesse, je suis pas en haut, je suis en bas. OK. D'abord, qui était David? OK, on connaît David le roi, mais à un moment donné, David, à l'époque où c'était un adolescent, avant d'être un grand homme, David, c'était un inconnu. Dans le fond, c'était personne d'important, c'était un nobody. C'était même un ado qui ne fitait pas dans le décor. La Bible nous dit que David était blond avec des beaux yeux et une belle figure. Puis, bon, dans le contexte d'une nation juive, il ne fitait pas. OK? Je connais pas beaucoup de juifs, moi, qui est un petit chétif avec les cheveux blonds et les yeux bleus. C'est pas tout à fait l'image qu'on se fait. Donc, il ne devait pas fitter pantoute dans le décor. C'est un petit blond. Vous savez, on a des préjugés souvent, même, comment il y a de jokes sur les blondes, hein? C'est souvent les jokes sur les blondes, ça vient peut-être de gens qui sont, de filles qui sont pas blondes, que ça les dérange parce que, un peu de jalousie des fois. Et c'est comme ça aussi, avec les jeunes, des fois ça va arriver. Hein? Un jeune qui est différent, on le met de côté. Il est pas pareil comme les autres. David, il fitait pas dans le décor, parce que c'était un beau petit bonhomme blond. Puis, il était différent des autres. Un jour, le prophète Samuel est parti pour aller oindre un nouveau roi. Il est allé chez Isaïe, le père de David. Et la journée où il s'est présenté, je vais me remettre dans le contexte. 1 Samuel 16, 6, 7. Au cas où j'avais oublié les versets, ils sont là. OK. Ça dit, « Lorsque ceux-ci arrivèrent, Samuel aperçut Eliab et se dit, c'est certainement lui que le Seigneur a choisi. » La première impression du prophète, quand il est arrivé chez Isaïe, ça a été, « Celui qui est grand, qui est fort, qui est costaud, qui impressionne, c'est sûrement lui que Dieu a choisi. » Mais, Dieu a dit, ne te laisse pas impressionner par sa mine et sa taille imposante, car je ne l'ai pas choisi. Je ne juge pas de la même manière que les hommes. Les hommes s'arrêtent aux apparences, mais moi, je vois au fond du cœur. Dieu regardait au cœur, et David avait un cœur selon Dieu. Il y a plusieurs références dans la Bible qui nous dit que David était un homme selon le cœur de Dieu. Par contre, la première impression du prophète, ça a été de regarder les plus grands. Ce n'est pas David qui aurait été intéressant pour lui. Ensuite, Isaïe, son père, dans le fond, il ne l'a pas fait appeler. Tous les frères étaient là, sauf lui. Bon, vous pourriez me dire qu'il était occupé, il était dans le champ, mais c'est une affaire banale, là. Le prophète, il ne se déplace jamais pour rien. Le prophète avait demandé à avoir tous ses fils, puis il ne l'a pas fait appeler. 1 Samuel 16, 11 dit, « Puis Samuel dit à Isaïe, il n'y a plus d'autres jeunes gens, et il répondit, il reste encore le petit, mais il fait paître le troupeau. Alors Samuel dit à Isaïe, « Envoyez-le chercher, car nous ne nous installerons pas avant qu'il vienne ici. » Bon, dans le fond, Samuel a dit à Isaïe, « Il n'en reste pas d'autres. » Il a dit, « Ben ouais, il reste encore le petit blond, là, il est dans le champ. » Il garde le blond, là. Tu veux vraiment aller le chercher? Il est allé le chercher. Puis là, le petit blond est arrivé. Ça devait être le fun pour le petit blond, ça. Hein? Il arrive, puis là, il apprend que le prophète est venu, parce que dans les fils de la famille, il va avoir un roi. Mais son père ne l'a pas envoyé chercher. Wow! Son père, il l'apprécie. Je sais pas, mais la peau de l'ado en question, là. Quand on est un ado, là, c'est pas cool, ça. C'est comme, il s'est senti sûrement assez rejet. C'est-à-dire, son père ne l'a même pas envoyé chercher. Son père n'a même pas eu la considération pour lui. Le prophète avait regardé son frère le plus grand avant. Puis lui, il sait comment qu'il ce qu'il a l'air, qui est tout petit, qui est blond, tout ça. Mais on continue. C'est lui qui est loin. Un peu plus tard, les frères de David, qui sont des costauds, des colosses, eux autres sont enrôlés dans l'armée, et puis ils servent avec Saül pour combattre les Philistins. Puis, pendant qu'ils sont au loin, leur père est un peu inquiet, puis là il dit, je vais envoyer David pour prendre des nouvelles. En même temps, il donne de la nourriture à David, il donne un peu de grains, je ne sais pas trop où c'est des graines de quoi, mais en tout cas, il vous donne un peu de nourriture, puis il donne des fromages en plus pour les chefs d'armée, puis là il dit, tu vas prendre ça, puis tu vas lui porter ça, puis tu vas me ramener un gage, c'est une preuve qu'ils sont encore en vie, puis que ça va bien. Fait que son père l'envoie expressément pour prendre soin de ses frères, pour prendre des nouvelles de ses frères. Et ce matin-là, David, en plus, il y a un gardien pour le troupeau. Il laisse le troupeau au gardien, puis il s'en va. C'est étrange que tout à coup, c'est pas grave s'il ne reste pas avec les moutons. OK. Alors, David arrive sur le champ de bataille, puis là, qu'est-ce qu'il se rend compte sur le champ de bataille? C'est qu'il y a une espèce de grand géant qui mesure 10 pieds. C'était 6 coudé et un enfant, ça fait exactement 10 pieds, 3 mètres. OK? C'était vraiment... J'imagine ici, rentrer dans l'église, il rentre à genoux, puis il se penche la tête, il en porte, il marche à genoux presque, parce que 10 pieds, pensez-y, 10 pieds, il passe même pas ici. Il faut qu'il se penche partout. Ça n'a pas de sens, 10 pieds. Tu sais, un grand pied, un grand 7 pieds, c'est... Jean Ferré, 7 pieds et demi, 10 pieds. Là, il voit cette espèce de monstre-là qui arrive, puis qui vient baver l'armée, qui vient insulter Dieu. Puis là, lui, il pose des questions. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait? Puis là, son frère est né Eliab l'entend. 1 Samuel 17, 28. Son frère aîné Eliab l'entendit discuter avec les soldats et se fâcha. « Pourquoi es-tu venu ici? » lui dit-il. « À qui as-tu laissé ton petit troupeau dans le désert? Je te connais bien, petit prétentieux, espèce de vaurien. C'est pour assister au combat que tu es venu? » Dans le fond, il a dit, « Hey, le blond, qu'est-ce que tu fais là? T'es venu nous écœurer? Pourquoi t'es pas resté avec tes moutons, là? C'est qui était avec tes moutons pendant que t'étais ici? T'as lâché ta job, là? Pas fiable? T'es venu ici juste pour nous baver? » C'est sûr que lui, là, il était piqué, là. Parce que son petit frère était là, en train de voir son grand frère, un grand six pieds, là, qui est colosse, puis qui est dans l'armée, puis qui est supposé être un tough, puis un dur, puis qui a une réputation. Puis là, lui est là à se faire insulter par un géant, puis il va pas. C'est un grand pissou. Puis là, dans le fond, là, ce qui le fatigue, c'est que son petit frère l'a vu, là. Ça l'insulte, là. Il est piqué dans son orgueil. Et David lui répond, 1 Samuel encore, juste la suite. « Qu'ai-je fait mal? » demanda David. « J'ai simplement posé une question. Hey, j'ai rien fait, j'ai juste demandé une question. Moi, c'est pas qu'il m'a envoyé ici pour venir t'apporter de la bouffe, qui a pas pour moi. Hey, moi, je voulais juste rendre service. Mais comment ça, on va voir ça, des jeunes qui vont se faire rentrer dedans, puis juste parce qu'on est de mauvaise humeur ou parce qu'il y a de quoi qui nous a picossé, tout à coup, c'est l'autre qui ramasse la colère puis l'offense, mais il n'est pas concerné nécessairement. OK. Donc, David, il a reçu la pression de ses frères qu'il ne considère pas. Ses frères ne le considèrent pas. Son père ne le considère pas. Le prophète ne l'avait pas considéré. Il a l'impression que personne ne le considère. Lui, là. Personne ne veut lui. OK. Mais lui, ça le dérange qu'on insulte Dieu. Parce que lui, il aime Dieu. Puis lui, il ne peut pas tolérer ça. Il dit, voyez, allez, moi, il bat le géant. Je n'ai pas peur du géant, moi. Il s'en va voir le roi Saül. Et le roi Saül ne croyait pas au potentiel de David. Parce que la première chose que le roi Saül dit quand il voit, « Non, répondit Saül, tu ne peux pas aller le combattre. Tu n'es qu'un enfant. Alors qu'il est un soldat depuis sa jeunesse. Hey, t'es juste un flot. Tu ne peux pas aller te battre avec lui. Qu'est-ce que tu fais là? » Le roi Saül, il connaît David, là. Parce que ça fait déjà un bout que David, il va jouer de la harpe pour calmer ses nerfs. OK? Il amène la paix. Il connaît David. Mais lui, il dit, hey, t'es un jeune ado, là. Tu peux pas aller te battre avec le géant. Mais là, David, il a dit, hey, mais moi, là, je suis habitué de défendre mon troupeau. Puis si un lion qui vient s'en prendre à une brebis, là, je vais l'arracher de sa bouche. Je vais le ramasser par le menton, puis je vais le planter. Puis s'il est venu un ours, j'ai fait la même job à l'ours. J'ai pas peur d'un ours, j'ai pas peur d'un lion, parce que Dieu est avec moi. Puis tu sais, à quelque part, je pense que Saül, il l'a cru. Parce que Saül, la seule façon qu'il avait la paix, c'est quand il venait jouer de la musique. Tu sais? Il disait, OK, viens ici, Lucas, prends ta guitare, joue-moi une petite toune. Tu sais, c'était le petit ado avec sa guitare qui... C'était sa harpe, mais bon, dans ce temps-là, c'était la harpe qui était à mode. Aujourd'hui, c'est la guitare. Aujourd'hui, il arrêtait avec une guitare, tu sais. Il venait, puis il commençait à chanter, « Tu es grand Seigneur! » Puis là, tout à coup, la paix arrivait dans la place. Vous savez, il savait que Dieu était avec lui. Mais malgré ça, la première réaction que ça a été de ne pas croire en son potentiel. Il n'a pas cru au potentiel de David. Ensuite, David se présente devant Goliath. Et là, arrivé devant Goliath, ben, Goliath non plus ne croit pas à son potentiel. Goliath, il dit, OK, il examina David, 1 Samuel 17, 42-44, il examina David et n'eut que mépris pour lui. Il eut du mépris pour lui. Il l'a méprisé. Car David, jeune encore, avait le teint clair et une jolie figure. Donc, on s'est envoyé une petite fille. Goliath lui cria, « Me prends-tu pour un chien, toi qui viens contre moi avec des bâtons? Maudit sois-tu par tous les dieux des Philistins! » Et là, pour ajouter à l'insulte, il a dit, « Viens ici, que je donne ta chair en nourriture aux oiseaux et aux bêtes sauvages. » Puis là, j'aimerais juste vous attirer votre attention sur quelque chose, c'est que dans le fond, ce qu'il a dit, c'est, « Mais j'ai fini avec toi, là. Tu vas être à terre, tu vas être mort. Ton armée, là, elle va pas venir te ramasser. Elle va te laisser là, puis c'est les animaux sauvages puis les oiseaux qui vont te bouffer. T'es même pas digne d'avoir une sépulture. T'es même pas digne qu'on t'enterre. » C'est la pire insulte que tu peux faire à un juif. T'es pas digne d'un enterrement. T'es pas digne d'une sépulture. T'es rien. Tu mérites même pas qu'on porte attention à toi après ta mort. Goliath avait que du mépris pour David. On accumule derrière David le fait qu'il était tout seul, qu'il était rejeté, que son père ne le considérait pas, que ses frères ne le considérait pas, que le roi le considérait pas, que le prophète le considérait pas. Maintenant que même son adversaire le considérait pas. David a répondu, voici mon arme secrète, je marche avec toi au nom de l'Éternel des armées. Et David a dépassé les limites que les autres essayaient de lui imposer, puis il a battu Goliath, puis il l'a tué. En réalité, l'arme secrète de David, c'était un cœur selon Dieu. C'était son arme secrète. Il avait un cœur selon Dieu. Il avait une intimité avec Dieu. Comment on peut avoir cette arme secrète? Il faut développer une intimité avec Dieu. L'arme secrète, la seule façon de l'avoir, c'est de développer une intimité avec Dieu. D'ailleurs, ce qui fait de nous des enfants de Dieu, c'est la relation avec Dieu. Et ce n'est pas une religion. On n'est pas chrétien à cause d'une religion, on est chrétien à cause de la relation qu'on a avec Dieu. Sauf que, faut l'entretenir, cette relation-là. Faut pas prendre ça à la légère. C'est trop important. David a passé le début de sa jeunesse à développer une relation particulière avec Dieu. Le fait qu'il était tout seul dans le champ avec les moutons, David n'avait pas le choix. Il n'y avait personne d'autre à qui parler. Il y avait juste Dieu. Ben, parler avec des moutons, ça vient plate, là. Bé, bé, sans jamais. Il y a toujours « mais ». Fait que David a commencé à développer sa relation avec Dieu, commencé à parler à Dieu. Puis plus il parlait à Dieu, plus il voyait autour de lui. David, il voyait toute la nature autour de lui, puis il appréciait Dieu. On voit dans les psaumes, parce qu'il parle tout le temps les verts pâturages, les eaux paisibles. Il décrit la nature, il voit Dieu partout, partout autour de lui. David, il goûte Dieu partout dans ce qu'il voit. Il voit Dieu partout, parce qu'il passe du temps avec Dieu. Il commence sa journée avec Dieu, il finit sa journée avec Dieu, il est tout le temps avec lui. Il passe du temps dans la prière, à un moment donné, il prend sa guitare, commence à chanter à Dieu, sa harpe. Puis il chante à Dieu, puis là, il chante à Dieu comment tout ce qu'il voit, comment c'est beau, comment Dieu est grand. Puis là, il commence à écrire les psaumes, il écrit 73 psaumes. Ça part de toutes les autres chansons qu'on ne connaît pas de lui, parce qu'il a écrit plein d'autres chansons qui n'ont pas été recueillies, pour toutes sortes d'événements. C'est un auteur prolifique, David. David, il chante à Dieu, il goûte la communion avec Dieu, il développe sa relation avec Dieu. Quand David est confronté au danger, David, il crie à Dieu. Il n'y a pas personne d'autre, c'est pas son père qui va venir l'aider, c'est pas ses frères, il est tout seul. Personne croit en lui, mais Dieu croit en lui. Puis il avance, puis Dieu est avec lui. Puis Dieu, il lâche jamais, 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 jamais. Fois après fois, Dieu est toujours avec lui. Peu importe les dangers qu'il rencontre, Dieu est avec lui, Dieu est fidèle. Il connaît la fidélité de Dieu. Quand il arrive un autre danger, un géant, pour lui, c'est... Lui, il ne voit pas le géant. Lui, il voit que Dieu est avec lui. Quand il a vu un ours, il n'a pas vu l'ours. Il a vu Dieu est avec lui. Quand il a vu un lion, il n'a pas vu un lion. Il a vu Dieu est avec lui. Parce que sa relation avec Dieu était intense. Moi, je me rappelle d'une période dans ma vie où est-ce que je m'étais éloigné. Je m'étais éloigné de Dieu dans le sens où j'avais commencé à... Bon, d'un fil en aiguille, j'avais commencé par dire, pour x, y raison, je m'étais laissé blesser. J'avais commencé à arrêter d'aller à l'église. Ensuite, après avoir arrêté d'aller à l'église, je m'étais lancé dans le travail, tête baissée. J'avais une école de musique, un magasin de musique. J'avais un commerce à la place Charpentier à ce moment-là. Je travaillais tous les soirs jusqu'à 10h le soir. Samedi, dimanche, j'avais pas le temps pour l'église. J'avais, à un moment donné, j'avais plus de temps pour Dieu aussi. Il y avait juste, je disais à tout le monde que oui, j'aimais toujours Dieu, je croyais à Dieu, j'avais même une salle de prière dans mon école où j'allais jamais. Et finalement, de fil en aiguille, j'avais commencé aussi à baisser mes standards, puis à permettre des choses qu'avant je ne me permettais pas, que là, je disais, c'est pas grave. J'avais trois adolescents qui grandissaient, puis je leur permettais des choses. Puis je disais, si tu veux, ils font leur vie, là, c'est pas grave. À un moment donné, mes standards baissaient. Puis à un moment donné, j'étais rendu fatigué, j'étais rendu épuisé. Parce que je prenais plus de temps avec Dieu, parce que ma relation avec Dieu était mince. pas que j'étais encore un enfant de Dieu, mais j'avais plus de puissance dans ma vie. J'étais desséché. Puis là, à un moment donné, est arrivé un événement. Bon, un événement bien banal, juste un soir, j'ai un élève qui n'est pas venu, je suis revenu plus de bonne heure à la maison. Au lieu d'arriver à la maison à 10h30, de manger à 11h, puis de me coucher à minuit pour me lever à 7h, je suis arrivé à la maison à 9h, puis à 9h30, je me suis couché. Le lendemain matin, à 6h, j'étais debout, puis comme à 6h, il n'y a rien à TV, j'ai décidé de prendre ma Bible, j'ai recommencé à lire ma Bible. Après une demi-heure, j'avais lu ma Bible, j'ai prié, j'ai pris un peu de temps pour prier, finalement, quand je suis arrivé à la fin de ma journée, j'ai dit, j'ai passé une bien meilleure journée qu'hier, je vais refaire ça. Puis là, j'ai recommencé à prendre du temps tous les matins avec Dieu. Puis là, après 2 semaines, 3 semaines, j'ai commencé à avoir le goût de, faudrait que je retourne à l'église, faudrait que j'aille entendre des prédications, faudrait que j'aille voir les frères et les sœurs. Mais c'était difficile, parce que là, j'avais l'ennemi qui disait, ben oui, tu vas voir ma 40, ils vont, les autres, ils vont juger, ils vont dire, qu'est-ce qu'il fait ici, il est même pas stable, il est tout croche, nanana. Puis là, j'entendais toutes sortes de réflexions dans ma tête qui n'étaient pas vraies, mais que je les entendais, tu sais. Fait que je me suis rendu à l'église, je me suis stationné dans la cour d'église. Puis finalement, à peu près 15 minutes avant la réunion, je suis parti, puis je suis allé déjeuner au restaurant parce que j'ai pas eu le courage de rentrer. Puis la semaine suivante, j'ai fait la même chose. Puis la semaine suivante, j'ai fait la même chose. Puis finalement, la 4e semaine, là, je suis rentré. Ça m'a pris un mois avant de me décider. Puis à toutes les semaines, j'allais à l'église. Puis 15 minutes avant, je partais, puis j'allais déjeuner au restaurant. Finalement, j'avais pas le courage d'y aller. Puis quand je suis rentré, je me suis rendu compte que c'était toutes tes idées de l'ennemi, il n'y avait rien de vrai là-dedans. J'étais à ma place dans l'église, avec des frères et des sœurs. J'ai recommencé à aller à l'église, puis j'ai fréquenté l'église pendant de nombreuses années après ça. Tout ça pour dire que c'est la relation avec Dieu qui nous amène à pouvoir prendre des victoires. Quand on est en communion avec Dieu, il se passe des choses. Dans 1 Samuel 16, 23, ça dit, « Et lorsque l'Esprit de Dieu était sur Saül, David prenait la harpe et jouait de sa main. Saül respirait alors plus à l'aise et se trouvait soulagé, et le mauvais esprit se retirait de lui. » La communion, l'intensité de la communion que David avait avec Dieu, quand on est en communion avec Dieu, on amène la paix autour de nous. Et la communion que David avait avec Dieu amenait la paix autour de lui. C'est pour ça que Saül réclamait David pour jouer de la musique, parce qu'il amenait la paix. Et juste remarquer que quand Saül a dit à David de combattre Goliath, seulement il lui a dit, va et que l'Éternel soit avec toi. Donc, il savait. Il était vraiment conscient que l'Éternel était avec David. Comme je disais tantôt, dans le fond, il avait reconnu que quand David venait, c'était Dieu qui était avec lui. Fait que quand David a dit, je vais y aller au nom de l'Éternel, il n'a pas pu dire autre chose que va et que l'Éternel soit avec toi, il savait. OK. Il a été choisi comme roi à cause de son cœur. Si on revient tantôt à quand il a été choisi à cause de son cœur, à cause qu'il avait un cœur selon Dieu. Regarde pas à sa taille, moi je regarde au cœur. C'est-à-dire à sa relation avec Dieu. 1 Samuel 16, 12. Et là, on a juste le contexte dans 1 Samuel 16, 12. Isaïe l'envoya chercher. Or, il était blond, du bleu, une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, « Lève-toi, oins-le, car c'est lui. » Samuel prit la corne d'huile, éloigné au milieu de ses frères. Et l'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Samuel se leva et s'en alla à Rama. Il y a des choses qui se dégagent de ce verset-là. C'est d'abord, David était le choix de Dieu. Mais même dans la façon, dans le procédé, qui a été oint. Saül, qui avait été le premier roi, quand il a été oint, l'huile pour le oint était dans une fiole. La fiole en question, c'était quelque chose qui avait été fabriqué par des hommes. C'était en métal. Là, David, lui, quand il est oint, c'est une corne. Puis une corne, c'est une corne d'animal. Puis l'animal, lui, il n'a pas été fait par l'homme. Il est fait par Dieu. Déjà, là, il y a une grande différence. C'est vraiment le choix de Dieu, il est vraiment oint par Dieu. Et ce qui est intéressant aussi, c'est la dernière partie du verset qui dit « L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. » À partir de ce jour-là, l'Esprit de Dieu était sur David. À partir du moment où il a été oint par Dieu, l'Esprit a été sur lui. Je continue. David n'était pas parfait. Loin d'être parfait. Et il a péché, mais il s'est repenti. Son péché n'était pas un petit péché. Son péché était très grave. Je vais vous expliquer l'affaire. OK. Fait que David, bonne journée, il a ouvert Internet, il est tombé sur un site, puis il est resté dessus, puis il a checké. Donc, il n'est pas arrivé comme ça, mais ça ressemblait à ça. Il était sur le toit de sa maison, il a rouvert un window. Hein? C'est pas... Puis, il a checké dehors. Puis, dans son window, il y avait une image qu'il n'aurait pas dû regarder. Mais il est resté là, planté, à regarder. Au lieu de changer de poste ou de fermer le window. OK? C'est la même chose, hein? Et, dans son cas, le péché a amené un péché qui a amené un péché qui a amené... Il y a une roue là-dedans. Quand tu rentres dans le péché, si tu n'arrêtes pas ça là, il y a une roue là-dedans. Il a commencé par avoir de la convoitise. Ça l'a amené à l'adultère. Et ça l'a amené à toutes sortes de mensonges et de tromperies jusqu'à arriver au meurtre. Parce qu'au début, il a essayé d'essayer de déguiser ça, qu'il allait coucher avec cette femme-là, il a essayé d'organiser ça, que faire venir le gars, puis il disait, bon, mais il l'a fait venir pour une raison même pas vraie, il a fait un mensonge pour le faire venir, puis là, après ça, il voulait qu'il aille coucher chez eux pour que personne ne sache que lui avait couché avec la femme, comme ça, parce que la femme était tombée enceinte sûrement, puis... Mais là, ça n'a pas marché son affaire, parce que lui, Uri, qui est arrivé, il a dit, ce serait pas juste, les autres soldats sont tous là, il a couché à la porte dehors, tu sais. Fait que là, David, il s'est retrouvé comme dans le labyrinthe de ses mensonges, à être obligé d'amener la solution ultime, de l'amener qu'il soit en avant au combat, tout seul à se faire tuer. Ça l'a amené au meurtre. Mais, David a demandé pardon à Dieu et Dieu a vu la sincérité de son cœur. Je veux juste vous amener dans l'événement du prophète qui est allé lui parler. Quand Nathan raconte une histoire, dans le fond, Nathan, le prophète Nathan est venu raconter une histoire. Je ne l'ai pas écrit dans mon texte, mais j'ai presque envie d'aller la chercher parce qu'elle est trop intéressante, je trouve. Fait que c'est dans 2 Samuel 11. Ceux qui ont leur Bible, les chanceux qui ont leur Bible. 2 Samuel 11. Et je ne vais pas tout lire, mais disons à partir de quand le prophète est venu le voir. D'abord, ça va être dans 12. Le prophète arrive dans 12. Dans 11, c'est tout ce qui se passe. Au chapitre 12, au premier verset, l'Éternel envoya Nathan vers David. Nathan vint vers lui et lui dit, il y avait dans une même ville deux hommes, un riche et un pauvre. Le riche avait du petit et du gros bétail en très grande quantité. Le pauvre n'avait rien du tout sinon une petite brebis qu'il avait achetée. Il la nourrissait et elle grandissait chez lui avec ses fils. Elle mangeait de son pain, buvait dans sa coupe, dormait sur son sein. Elle était tout pour lui, comme une fille. Il y en a qui sont le même avec le petit chien ou le petit chat, là, hein? OK. Un voyageur arriva chez l'homme riche et le riche ménagea son petit et son gros bétail pour préparer un repas aux voyageurs arrivés chez lui. Il prit la brebis du pauvre et l'apprêta pour l'homme arrivé chez lui. La colère de David s'enflamma violemment contre cet homme et il dit à Nathan, « L'Éternel est vivant. L'homme qui a fait cela mérite la mort. » Je vais arrêter là. Nathan, après, il a dit, « C'est toi l'homme. » Mais, quelque chose que je voudrais vous faire remarquer là-dedans. Quand Nathan a raconté l'histoire, David, spontanément, il a dit, cet homme mérite la mort. Premièrement, David, là, quand il voit arriver le prophète, là, il sait que le prophète, il vient pas pour rien. OK? Le prophète, il vient jamais pour rien. Dans la Bible, le prophète, quand il se déplace, il y a toujours une raison. Vous savez, tantôt, quand le prophète est allé oindre David, dans 1 Samuel 16, 4, quand il est arrivé dans la ville, 1 Samuel 16, 4 nous dit, « Les anciens de la ville accoururent effrayés au-devant de lui et dirent, « Ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux? » Les anciens de la ville, quand ils avaient vu le prophète arriver en ville, ils ont couru en avant, ils n'ont même pas laissé rentrer. « Tu viens-tu pour quelque chose de bon, toi-là? » Il y avait la chienne. Parce que le prophète, ça pouvait être quelque chose de bon ou quelque chose de mauvais. Mais il venait jamais pour rien. Le prophète arrive à David. David, il sait qu'il vient pour lui dire de quoi, là. Vous pensez que David a éteint sa conscience? Non. David, il sait, il est coupable, puis il sait. Psaume 32, versets 2 à 5, nous dit, « Heureux l'homme... » C'est David qui a écrit ça. David a écrit ce psaume-là, et on dirait vraiment qu'il a écrit ça pendant cette époque-là. OK? Écoutez ce qu'il dit. « Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité, dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient, je gémissais toute la journée. Car nuit et jour, ta main s'appesantissait sur moi, ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité, j'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel. » Et tu as effacé la peine de mon péché. David, il sentait, il était écrasé, il se sentait minable. Puis quand le prophète a commencé à dire, il y avait un homme qui avait une petite brebis, qui en prenait soin, il savait que c'est lui qui parlait. Il voyait venir le prophète, là. C'était pas un deux-pics, David, là. C'était un homme très intelligent, là. Il l'écoutait, puis il savait qu'il s'en venait, ou qu'il s'en venait avec ses sabots, là. Il l'entendait, là, il avait la petite brebis, il en prenait soin, c'était la seule qu'il avait, l'autre qui avait des grandes richesses, qui était... Il savait que c'est lui qui parlait. Mais, j'en connais plusieurs, que leur réaction s'arrêtait, OK, qui a commencé à se déresponsabiliser. Il aurait dit, genre, quand le prophète aurait dit, aurait fini l'histoire, qu'il a pris la seule brebis qu'il avait, qu'il aurait dit, « Ouais, mais ça dépend, là. » L'autre, il avait juste à pas laisser la brebis tout seul. C'est à cause qu'il a laissé la brebis tout seul. Ou il aurait dit, « Ouais, mais tu sais, t'es tellement cute, ta brebis, là. » Ou, « C'est difficile pour un gars qui a des moutons. » Un gars qui aime bien les moutons. Il est tombé sur un mouton abandonné. Ouais, il y en a plusieurs qui auraient réagi comme ça. Mais David n'a pas réagi comme ça. Comment David a réagi? Il a dit, « Cet homme mérite la mort. » David a tout de suite avoué. Tout de suite, il a avoué. Il voulait pas continuer à vivre avec la culpabilité de son péché. C'est à cause de ça que David est appelé un homme dans le cœur de Dieu. David avait soif de justice et a déclaré une sentence de mort sur lui-même. Quand on fait des choses mal, on doit le reconnaître et demander pardon à Dieu. C'est tout. C'est tout. Puis je vous dirais que si on fait ça, ça va avoir un effet d'entraînement. Ça va pas rester là. Il va avoir un effet d'entraînement si c'est notre décision de faire ça. Quand j'avais 18 ans, il m'est arrivé à un moment donné d'être dans une situation où j'étais pas chrétien à ce moment-là, où je venais tout juste de donner. Je venais de donner ma vie au Seigneur, puis il n'y avait pas encore le ménage, n'était pas complet dans ma vie. J'avais encore mes anciens amis avec qui je me tenais. Puis je venais de passer une espèce de soirée où est-ce que j'étais vraiment malheureux dans cette soirée-là parce que l'activité qu'on avait, c'était, on se promenait en auto, on avait 3-4 autos, puis on faisait du vandalisme. Puis vraiment, j'étais pas très heureux là-dedans. Je venais de donner ma vie au Seigneur, puis là, j'avais plus le goût de ça. Puis à un moment donné, quand les chars ont manqué de gaz, je lui dis, enfin, je vais pouvoir débarquer. Puis, là, il y en a un dans la gang qui a dit, ben, on va aller chez un tel, on va prendre un bout de hausse, puis on va aller siphonner du gaz dans des chars, puis on va continuer. Et moi, j'ai dit, je débarque ici. Puis, dans le fond, quand j'ai dit, je débarque ici, je ne voulais pas juste débarquer du char, je voulais pas juste débarquer de la soirée, je débarquais de la gang. C'était la dernière fois que j'étais là. OK? Mais, les autres autour, qui étaient là, ils ont dit, « Ah, pissou, peureux, nanana. » Puis, j'ai dit, « Oui, correct. » Je prends ça. C'est vrai que j'étais un pissou, j'étais un peu heureux, pas de problème, mais je débarque ici. Je vous dirais que c'était beaucoup plus dur de dire « Oui, je suis pissou, puis je débarque ici » que de dire « Non, non, je suis correct, je suis. » J'embarque dans la gang, puis je ne me fais pas traiter de rien, puis demain, ça va être un nouveau jour, puis je lâcherai tout. Non, j'ai arrêté. J'ai dit « Non, moi, je débarque ici. » Je suis débarqué. Puis, les autres dans l'auto avec qui j'étais, ils ont dit « Ah, oh, ben, si vous, il va pas, tu vas pas. Oh, moi, je vais pas d'abord. » Puis là, tout le monde a débarqué, puis personne n'est allé. Puis le lendemain, j'ai recroisé un de la gang qui m'a dit, dans le fond, je suis content que tu sois débarqué parce que j'avais pas le goût pantoute d'y aller. Moi aussi, j'étais écœuré. Juste pour dire que quand on prend des décisions, des fois, Dieu, il y a un effet d'entraînement. Quand David a vaincu Goliath, toute l'armée d'Israël est parti en courant après les Philistins, puis les Philistins qui faisaient leurs gros bras puis leurs baveux, ils sont sautés en courant puis ont mangé une volée. Ils se sont fait rentrer dedans. À cause de David, tout le monde, après, a eu une victoire. Il y a eu un effet d'entraînement sur tout le monde. Quand on se tient pour Dieu, ça a un effet d'entraînement sur les autres autour de nous. Quand on a quelqu'un qui témoigne qu'il a pris position, qui s'est tenu pour Dieu, qu'il y a eu une victoire dans sa vie, ça a un effet sur tout le peuple de Dieu. Quand on entend Michel qui témoigne qu'il y a une victoire sur le cancer, waouh, c'est une victoire. Tout le monde est dans la joie. Tout le monde est dans la victoire. Quand on dépasse nos limites, on aide les autres à faire pareil. OK. Alors, j'ai trois petits points que j'ai notés. Les limites ne nous limite qu'à moins qu'on ne les laisse nous limiter. David n'a pas laissé les limites que les gens essayaient de mettre sur lui le limiter. Il les a refusées, les limites que les gens mettaient sur lui. Essayons pas d'être quelqu'un d'autre quand les autres nous imposent des limites. Parce que, je n'ai pas parlé, j'ai sauté un peu vite là-dessus, mais Saül a essayé de mettre une armure aussi sur le dos de David. Il a dit, bon, on va te quitter d'une armure, tu vas prendre mon armure. Puis David, dans le fond, il a refusé l'armure de Saül. Il a refusé de mettre l'armure des préjugés, qui ne serait pas assez capable pour combattre Goliath sans une armure. Il l'a refusé. C'est pas juste l'armure physique qu'il a refusé, c'est l'armure des préjugés. Essayons pas d'être quelqu'un d'autre. Soyons des vaillants guerriers, mais avec ce que Dieu nous donne. Et quand on dépasse nos limites, on aide les autres à faire pareil. Si on construit et on entretient notre relation avec Dieu, on va être conscient de toute sa puissance dans notre vie. Et à ce moment-là, d'abord, on ne laissera pas les autres nous limiter par les préjugés défavorables qu'ils ont sur nous. On ne laissera pas la culpabilité et les péchés nous écraser. On va se tenir debout pour arracher les brebis perdues de la bouche de l'ennemi. Et on va refuser d'être les préjugés défavorables pour d'autres, envers d'autres. Il faut aussi refuser d'être des préjugés défavorables parce que tout le monde ne sont pas dans une relation intense comme David. Moi, je vous dirais, je suis pas sûr que je les aime beaucoup, là. Je les aime les jeunes, là, OK? Tous les jeunes qu'on a, je les aime énormément. Mais je ne sais pas jusqu'à quel point ces jeunes-là ont la même intensité dans leur relation avec Dieu que David avait. Et jusqu'à quel point, s'ils subissent des préjugés, ça va pas les affecter. Moi, je peux vous dire que quand j'avais 15-16 ans, j'allais dans une église où est-ce que j'étais pas vraiment chrétien, mais c'était pas grave à ce moment-là. À cette église-là, OK? Puis j'avais eu l'idée de partir une chorale. C'était ma première chorale. Fait que là, j'ai trouvé du monde, j'ai trouvé des chansons, j'ai écrit des chansons, j'ai tout préparé. J'avais pas beaucoup d'expérience. On a eu une première pratique. Ça avait du bon sens, mais il y avait quelqu'un dans la chorale qui était un adulte, qui avait des études en musique, tout ça, puis finalement, il m'a tassé. Puis je me suis retrouvé plus là. Puis, je me suis retrouvé plus dans cette église-là non plus. Puis après ça même que je me suis retrouvé plus du tout à l'église. OK? Mais c'est facile quand on est un adolescent peut-être d'être offensé aussi. Fait qu'il faut être attentif, intentionné peut-être face aux autres, aux plus jeunes aussi. Faites aussi attention de ne pas être un entrave pour quelqu'un d'autre. Faire attention avec nos préjugés, des fois, ruminer comme il faut comment ça va sortir avant de dire quelque chose à quelqu'un pour ne pas le blesser trop. Tout le monde n'a pas la force de David. OK. Excusez la petite parenthèse, là, mais... On a des jeunes exceptionnels. Exceptionnels. Moi, je les vois à chaque semaine, hein, puis je les vois grandir, puis je les vois aller, puis... J'aurais pu passer toute l'heure que j'avais à vous parler juste des jeunes, puis de ce qu'ils font. Mais j'avais juste une petite anecdote à vous raconter avec les jeunes. Puis, vous savez, des fois, peut-être vous les voyez le mercredi partir, mais c'est parce qu'on va dans la salle jeunesse, puis on prend du temps ensemble, puis on prie ensemble, puis on partage ensemble. Puis dans le fond, à un moment donné, j'avais réalisé, les jeunes venaient le mercredi, puis ils me disaient, mais ils viennent à l'église, mais ils s'assient en arrière, et ils sortent de l'église. Pourquoi, tu sais? Mais c'est parce que dans le fond, ils ont eu une journée d'école, ils ont eu plusieurs cours d'affilée, puis ils n'avaient comme peut-être pas le goût d'avoir un autre cours. Fait que là, j'ai qu'on pourrait faire avec ça. Ils ont le goût d'être à l'église, mais en même temps, il y a un défi d'avoir un autre cours, c'est difficile pour eux autres. J'ai parlé de ça avec Pasteur Khan, puis il m'a dit, ben, va dans la salle de jeunesse avec eux autres, puis fais quelque chose avec eux autres. Fait que, on a commencé à prendre du temps ensemble, puis on a commencé à prier ensemble. Juste, chacun donnait une requête, puis chacun prenait le temps de prier pour la requête de quelqu'un d'autre. Puis on a fait ça, quelques reprises, puis on a eu du bon temps. Puis j'ai vu les jeunes un peu s'exprimer là-dedans, puis grandir, puis je trouvais que c'était bon. À un moment donné, je suis arrivé un mercredi après une journée effrayante, parce que ça ne me tentait même pas peut-être de venir à l'église. Puis je suis venu en me disant, bon, ben, les jeunes comptent sur moi, il faut que je sois là. Fait que je suis venu. Puis quand je suis arrivé dans la jeunesse, j'ai dit, je ne vais pas être hypocrite avec eux autres et leur faire croire que ça va bien. Je vais leur dire que ça ne va pas bien. T'sais. Je leur ai dit, je ne file pas trop, j'aimerais ça s'il y en avait un de vous autres, juste un, qui pouvait prier pour moi, ça me ferait du bien. T'sais. Mais là, ils sont tous élevés. Ils sont mis en rond autour de moi, ils ont tous mis les mains sur moi, puis ils sont tous mis à prier à tour de rôle. Ça m'a tellement touché de voir ces jeunes-là, si sensibles. On a des jeunes qui aiment Dieu, on a des jeunes qui sont sensibles. Prenons soin de nos jeunes. OK, excusez, je suis bien émotif quand je parle des jeunes, mais... Si jamais vous n'avez pas entretenu votre... avec Dieu, je vous encouragerai à le faire. C'est important. Parce que c'est ça qui fait qu'on peut être efficace. Ça, si vous voulez, on pourrait, juste dans un premier temps, on va se lever, on va prendre le temps de prier ensemble et demander à Dieu d'avoir une attitude où est-ce qu'on va développer, entretenir notre relation avec lui, prendre du temps chaque jour avec lui. Pas juste se débarrasser, mais vraiment arrêter, prendre du temps. Quand je dis arrêter, prendre du temps, là, je veux dire, s'il faut se lever une demi-heure plus tôt le matin, le faire. Des fois, c'est dur un peu mettre le cadran à 5h30 quand on part travailler à 6h30, puis que d'habitude, on se lève à 6h, puis bon, on sacrifie une demi-heure pour être sûr d'avoir un premier temps avec Dieu, pour être sûr que le premier temps précieux de la journée, on parle à Dieu. Qu'on a notre relation avec lui. Fait qu'on peut pencher nos temps ensemble, se lever debout peut-être, pour commencer. Seigneur, premièrement, je voudrais te demander, Seigneur, de nous aider à voir les autres comme toi tu les vois, Seigneur. Et de nous aider à voir tout ce qu'on peut faire avec toi, plutôt que de voir tout ce qu'on peut pas faire quand tu n'es pas là. Et nous, à dépasser nos limites, et à prendre du temps avec toi, Seigneur. Aide-nous à être disciplinés dans notre temps avec toi pour toujours avoir la communion avec toi, de faire grandir notre relation avec toi, Seigneur. Seigneur, si on a délaissé notre relation avec toi, Seigneur, on veut te demander pardon ce matin, Seigneur, et s'engager à maintenant mettre de l'ordre dans notre relation avec toi, Seigneur. Quitte à l'inscrire dans notre horaire, Seigneur. Merci, merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais dans nos vies. Et merci, Seigneur, pour toutes les prodiges que tu fais dans la vie de tous ces jeunes, Seigneur. Merci pour ta présence merveilleuse dans nos vies. Et je te prie, au Père, dans le précieux nom de ton Fils Jésus, avec une entière confiance. Amen. Juste, j'aurais autre chose à partager avec vous. C'est juste, peut-être qu'il y en a parmi vous qui connaissent pas Jésus. Ou peut-être que vous venez pour la première fois d'entendre que, oups, je pourrais avoir une relation avec Dieu. Et c'est ça l'important. Oui, parce que c'est la relation avec Dieu qui nous sauve. C'est d'entrer en relation avec lui. C'est de lui demander pardon pour nos fautes. De l'accepter comme notre Seigneur, notre Sauveur. C'est cette décision-là qui fait de nous un enfant de Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir un enfant de Dieu. C'est à cause de lui, à cause de son sacrifice à la croix, qui a pris notre place. Et j'aimerais ça, si jamais vous n'avez pas encore donné votre vie au Seigneur, si jamais vous n'avez pas commencé cette relation-là avec Dieu, si vous n'êtes pas jamais entré dans cette relation-là avec Dieu, j'aimerais vous donner l'opportunité de le faire ce matin. Fait que pour ça, si vous avez pas encore donné la vie au Seigneur, j'aimerais ça vous inviter à le faire maintenant. Peut-être juste un geste simple pour vous engager, en lever la main. Seigneur, je veux donner ton enfant. Ce serait aussi simple que ça. On va fermer les yeux une autre fois, OK? Puis je vais prier pour ceux qui veulent le faire, mais si jamais vous n'avez pas encore donné votre vie au Seigneur, j'aimerais vous demander de lever votre main. Puis je vais pouvoir prier avec vous. Puis on va prier ensemble. Alléluia, gloire à toi, Jésus. Peut-être qu'il n'y a personne d'entre vous qui avait jamais donné votre vie au Seigneur, qui vous êtes engagé à le suivre, à faire de lui votre Seigneur et votre Sauveur. Ben, je réitère encore mon offre et mon invitation parce que je veux être sûr que personne ne peut passer à côté de l'opportunité qu'il y a de donner sa vie au Seigneur. Alors, si quelqu'un veut donner sa vie au Seigneur, je l'invite maintenant à lever sa main. Alléluia, Jésus. Gloire à toi, Seigneur. J'ai vu ta main. Tu peux la baisser. Alléluia, gloire à toi, Jésus. On va prier ensemble. Si tu veux, tu peux peut-être t'avancer, puis celui qui a levé sa main, s'il y en a d'autres qui veulent s'avancer aussi pour... S'il y en a d'autres aussi qui veulent s'avancer pour dire, oui, je désire me consacrer plus à toi, Seigneur, je désire être vraiment bouillant pour toi, ô Dieu. Je désire être engagé. Je veux m'abandonner à toi. M'engager à renforcer ma relation avec toi. J'ai délaissé dans le passé. Je veux vous inviter peut-être à faire un pas de plus. Puis à vous avancer en avant, on va prier ensemble. Mais des fois, ça prend un premier qui s'avance pour que les autres aient le courage de le faire. Alléluia. Toi, Jésus. Toi, Jésus. Précieux roi des rois. À toi, Jésus.
Alléluia. On va juste rester sensible à l'esprit ce matin. Jeunette avait quelque chose à partager, mais juste restons sensibles. On n'est pas des spectateurs, on a des participants ce matin. Le Seigneur est en train de travailler les cœurs. Il y a des gens qui sont venus pour un temps de consécration. Dans une minute, on va prier avec eux. Mais Jeanette, c'est quoi que tu avais dans
le Seigneur, qu'est-ce qu'il veut vous dire ce matin, c'est que pour certains, vous connaissez les choses de Dieu, mais vous ne me connaissez pas. Vous connaissez mes paroles, mais vous ne connaissez pas ma voix, ma direction. Vous connaissez mes actes, ce que j'ai fait, mais vous ne connaissez pas mes voies. Approchez-vous. Ceux qui sont éloignés, je vous dis, c'est écrit dans sa parole, revenez à moi et je reviendrai à vous. C'est écrit aussi, approchez-vous de moi et je m'approcherai de vous. Avancez, je vous attends. C'est la consécration, mais c'est beaucoup plus. Ceux qui ne me connaissent pas, ceux qui n'ont pas donné leur vie, c'est le moment. C'est le début d'un jour nouveau pour vous.
Alléluia. Donc, on va chanter encore une fois, mais juste avant de chanter, je pense que c'est vraiment de l'esprit. On a tous des géants à vaincre dans notre vie. Et ce matin, on veut tuer les géants. Donc, je vous invite à venir. Si vous n'avez pas encore donné votre vie au Seigneur Jésus, comme elle a dit, c'est le moment. Soyez pas gênés. Venez, on a une atmosphère d'amour ici. Le fait que vous venez en avant, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas une bonne personne ou quelque chose de ce genre, ou que vous êtes dans les choses qui ne sont pas correctes même. Mais des fois, on a juste besoin de s'approcher de Dieu. Quelques-uns, c'est pour donner sa vie au Seigneur. Les autres, c'est pour vraiment un temps de consécration. Mais je vous invite à venir pendant qu'on chante. Est-ce qu'il y a des gens ici que c'est la première fois que vous donnez votre vie au Seigneur? Oui, c'est la première fois pour toi, toi aussi. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui n'a jamais confessé Jésus comme Sauveur et Seigneur qui a besoin de se rejoindre à ces deux personnes-là? Juste venez vite, vite. On va prier. On va demander à tout le monde de prier avec ces deux jeunes hommes ce matin. Ils vont passer de la mort spirituelle à la vie spirituelle. Ils vont naître de nouveau. Comme la Bible dit que si tu confesses avec ta bouche le Seigneur Jésus et tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Que c'est bon, c'est merveilleux. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Juste venez. Mais j'aimerais que tout le monde prie. Vous deux surtout. On va prier avec eux, mais je vais faire une prière. J'aimerais que vous répétez après moi cette prière. On va tous prier ensemble, OK? Donc, Père Céleste, au nom de Jésus, je viens à toi. Et je confesse avec ma bouche que Jésus-Christ est mon Sauveur et mon Seigneur. Je crois de tout mon cœur que Jésus est mort pour moi, qu'il était enterré et qu'il est ressuscité. Et à partir d'aujourd'hui, je vais vivre pour Jésus. Merci Seigneur que tu fais de moi une nouvelle création. Mes péchés sont pardonnés. Lavés. Je suis purifié par ton sang précieux. Je suis ton enfant. Je suis sauvé par ta grâce. Et à partir d'aujourd'hui, je vais vivre pour toi jusqu'à la fin de mes jours. Et pour toute l'éternité, je serai avec toi. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut remercier le Seigneur pour ces deux? Vous savez que nous avons une Bible que nous aimerons vous offrir gratuitement. Et Pasteur Claude ici, tantôt, il peut vous offrir ces Bibles, c'est un cadeau. Mais s'il y a des gens qui ont besoin ce matin de s'avancer juste pour entendre de consécration, vous voulez vous approcher du Seigneur, on va chanter et je vous invite à venir. On va prendre quelques minutes et même pas midi. Donc, on va prier et on va chercher la face du Seigneur ce matin. Amen. Alléluia. Il y a plusieurs personnes qui sont venues en avant. Et on va, tantôt, on va chanter cette dernière partie encore. Je vais courir, me tenir dans tes bras. Mais je veux juste prendre quelques minutes ce matin. On va vraiment prier ensemble et on va remercier le Seigneur parce qu'il y a des personnes qui sont ici ce matin et c'est sérieux qu'est-ce qu'ils font. Parce qu'ils veulent foncer avec Dieu. Ils veulent tuer les géants dans leur vie. Et dans l'esprit, on va les aider à le faire ce matin. Amen. Et dans le fond, moi, je suis convaincu qu'il y a pas une personne dans la salle qui, dans un sens, ne devrait pas être ici. Amen. Je suis pas en train de dire que tout le monde doit se déplacer, mais ces gens-là ont pris un pas de la foi et je veux quand même prendre quelques minutes. On va prier avec eux au nom de Jésus. Donc, merci Seigneur. Alléluia. Donc, juste prions avec nous. Père, au nom de Jésus, je te remercie que ce matin, chaque homme, chaque femme qui est venu ici en avant est venu parce que leur cœur est assoiffé de toi. Ils ont faim de toi. Ils ont, Seigneur, le désir de te connaître d'une façon intime. Et Père Céleste, je prie que tu connais les besoins, tu connais les raisons, Seigneur, pour lesquelles les gens sont venus ce matin. Il y a quelques-uns, peut-être ils ont des luttes dans leur vie. Et Seigneur, nous déclarons au nom de Jésus, tout le monde dit au nom de Jésus, Nous déclarons, Seigneur, la victoire, Seigneur. Nous déclarons, Seigneur, qu'il y a des gens qui ont besoin de tuer les ours, ils ont besoin de tuer les lions afin de pouvoir faire face aux géants au nom de Jésus. Il y a d'autres qui ont déjà tué les ours, ils ont déjà tué les lions et c'est déjà le temps aujourd'hui où ils sont face à face avec des géants, Seigneur. Mais Seigneur, on n'a pas peur parce que le même Dieu qui nous a délivrés du lion et d'ours, il n'a pas changé, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc Père, au nom de Jésus, merci que ce matin, nous déclarons la victoire pour chaque homme et chaque femme qui est ici. Et Seigneur, nous prions pour chaque membre de cette Église, que nous puissions, Seigneur, comme nous avons entendu aujourd'hui, Seigneur, prendre le temps de cultiver, de développer notre relation avec toi, Seigneur, afin de te connaître, pas juste, Seigneur, intellectuellement, mais dans le fond de notre cœur, qu'on puisse te connaître, Seigneur, avoir une passion pour toi, te connaître et te faire connaître aux autres, Seigneur, au nom de Jésus. Donc, merci, Père. Merci, Seigneur. Donc, alléluia. Donc, ces paroles sont bonnes, on va changer l'histoire. Est-ce qu'il y a des gens qui croient que nous allons pouvoir changer l'histoire?
Enseigne-moi.com.
Enseigne-moi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseigne-moi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseigne-moi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.